Notre Dieu, nous te remercions pour cette soirée. Merci Jésus de nous instruire encore afin que nous soyons encore plus à ta gloire dans toutes les actions que nous faisons par notre foi, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors bonsoir à tous, je pense que vous allez bien.
Oui.
C'est super, on a un orage ce soir. Et demain, il va faire beau pendant au moins, enfin, en tout cas, les 7 jours prochains, c'est le grand soleil. Alors, on va user la piscine encore. Bon. Actes chapitre 19, versets 11 à 17. 11 à 17. Je vous lis. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Alors moi j'ai fait ça aussi et j'ai vu des délivrances extraordinaires, mais qu'est-ce que j'ai pas pris de la part des pasteurs? Ils disaient que c'était de la magie. Bon. Lis ta Bible et lis-la bien, hein? La suite. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Et ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séba, un juif prêtre, chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maltraita tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, la crainte s'embarra de tous, et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait, etc., etc. Il y a des gens qui se convertissaient. Magnifique. Les miracles, ça fait de la pub pour Jésus. Ça fait du bien à ceux qui sont miraculés, et puis ça fait aussi de la pub pour Jésus. Je vous disais, je vous enseignais qu'il y a de la puissance, qu'il y a toute la puissance dans le nom de Yeshua, de Jésus. Beaucoup s'imaginent que, parce qu'ils disent au nom de Jésus, ou alors au nom de Yeshua, qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire pour manifester la puissance qui est en eux. Le nom de Yeshua, c'est une arme suprême, mais il ne faut pas oublier qu'une arme, quelle qu'elle soit, a toujours besoin d'être maniée par un bras. Et mes frères et sœurs, ce bras doit être solide et bien exercé. Parce que sinon, l'arme la meilleure, elle reste inefficace. Des gens peuvent dire au nom de Jésus, crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ceux qui sont venus avec moi en Afrique, vous avez vu, ils sont là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils répètent ça pendant des heures. C'est affreux, c'est affreux. Si les bras des disciples avaient été des bras solides et bien exercés, je crois qu'ils auraient eu une autre conduite au moment de l'arrestation de Jésus-Christ dans le jardin. Mais bon, tous les disciples ont abandonné ce jour-là, ils ont pris la fuite. Matthieu 26, 56. Vous me direz, oui, mais il fallait bien que ça arrive, parce que sinon Jésus n'aurait pas été arrêté. S'il n'avait pas été arrêté, il n'aurait pas pu mourir pour porter nos péchés. C'est vrai, mais il n'empêche quand même qu'ils n'ont pas été fortiches ce jour-là. Hein. Comme nous, des fois. Il faut aussi reconnaître que des fois, on n'est pas fortiches non plus. Combien de fois, depuis que je suis converti, j'ai entendu des chrétiens dire « Je puis tout par celui qui me fortifie, Yeshua, Jésus. » Alors oui, Jésus est tout-puissant, oui, c'est vrai, mais eux. Bon, je dis pas que moi je suis tout-puissant non plus, mais bon. Frères et sœurs, je crois que j'ai appris certaines choses qui font quand même un peu la différence. Et ceux qui ne me connaissent pas, ben, je vais vous parler un peu ce soir de ces choses-là, c'est important. C'est pas magique de dire le nom de Yeshua ou le nom de Jésus-Christ. Il nous faut chercher à vivre la vie et l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que sinon, on peut dire Yeshua, Yeshua, tout ce qu'on veut. Vous avez vu, les démons, ils ont dit, on vous connaît pas, on sait pas qui vous êtes, hein. C'est pas qu'ils les connaissaient pas. Ils mentent de toute façon, mais ils en avaient rien à faire de ces gens-là parce qu'ils n'étaient pas en conformité avec l'enseignement du nom dont il se réclamait, ni de Paul, ni de Jésus, à plus forte raison. Et si on ne fait pas ça, cette formule, au nom de Yeshua, ben ça ne peut pas faire grand-chose. Ça peut pas faire grand-chose. Alors j'en ai vu des gens sincères se croire capables de chasser des démons, et puis qui venaient me narguer après en me disant « Ah, mais depuis qu'on a chassé les démons, elle est complètement délivrée. » Bon. Bon, on a vu quelques jours après. Hein. Et c'est navrant. Ce sont des gens qui s'attaquent sans savoir à quoi ils s'attaquent. C'est ça le truc. Dans le livre des Actes des Apôtres, on a cet exemple-là des démons qui répondirent aux imitateurs de pacotille. « Ok, Jésus, on connaît, mais toi, t'es qui, toi ?» Et puis, ils les ont mis en fuite. Roués de coups et déshabillés, ils sont partis tout nus. Je me rappelle d'une histoire qu'on étudiait, quand on étudiait la démonologie à l'école biblique, je me rappelle, le professeur nous avait raconté l'histoire d'un pasteur avec son second. Il y avait une femme qui était possédée, on leur avait emmené cette femme possédée, et comme elle était extrêmement violente, il l'avait mise dans une pièce, dans un grenier. Et puis, eux, ils étaient derrière la porte et ils chassaient le démon à travers la porte, parce que cette femme était terriblement violente. Et puis au bout d'un moment, le pasteur était un peu fatigué, il a dit au jeune, reste là, je reviens tout de suite, mais ne fais rien, bouge pas, fais rien, je vais boire un peu d'eau et je remonte. Et le jeune homme s'est cru mariole, il a fait le mariole, et il a commencé à chasser le démon, il s'est dit, ça va marcher, puis le pasteur sera tout étonné hein, de voir qu'avec moi ça marche. Il y a eu un peu de orgueil dans son cœur. Eh bien la femme a traversé le mur, elle a pointé son doigt sur lui et le type est tombé malade immédiatement. Ils ont mis des mois et des mois et des mois pour qu'il puisse s'en sortir. Vous voyez, on bricole pas avec ces choses. Il faut pas bricoler avec ces choses. C'est écrit, tous ceux qui croient en mon nom, ils chasseront les démons. Oui, mais ceux qui croient en son nom, ils croient en Jésus et dans son enseignement et ils s'y conforment. Et voilà, quoi. Et l'enseignement de Jésus aujourd'hui, il est comme il était autrefois, de plus en plus, parce qu'il y a eu toute cette période d'apostasie, et maintenant Jésus rétablit son enseignement dans son Église, et si on n'accepte pas son enseignement tel qu'il le donne aujourd'hui dans son Église, ben on est des gens qui sont à côté, quoi. Si on ne sait pas, on ne sait pas, mais si on sait... Le diable sait qu'on sait et il se moque de nous. Ça le fait rigoler. Et voilà, donc. Vous savez, de nos jours, des Ananias et des Saphira pullulent dans les églises dénominationnelles. Pourquoi ? Les premiers Ananias et Saphira, ils ont voulu tromper Dieu. Dieu a montré un exemple. Là, ils sont morts sur le champ. Mais Dieu ne tue plus tous les Ananias et Saphira parce qu'ils videraient les églises aujourd'hui. C'est plein de ces gens qui croient qu'ils ont tout fait parce qu'ils donnent à la collecte. Bon. Et puis les apprentis exorcistes aussi pullulent dans les églises. Et les démons ne les maltraitent pas forcément de la même manière. Pourquoi, on pourrait se dire ? Ben, y a plus besoin, parce que les temps ont changé et les jugements tombent moins fort pour le moment. Je dirais presque qu'il y a de la lassitude en Dieu. Et même dans les démons, il y a tellement de rigolos qui s'amusent à les chasser que ça, finalement ça les enquiquine de voir à chaque fois se manifester avec puissance pour les maltraiter, les maîtriser et tout. Ou ils laissent couler, ils ont marre de voir tous ces rigolos qui s'agitent en chassant les démons au nom de Yeshua, de Jésus, de tout ce que vous voulez. Mais ils tombent quand même, et de toute façon... ils tomberont sous le jugement devant le trône blanc. Et toutes ces clowneries seront pesées, jugées et récompensées comme il se doit. C'est pourquoi nous, il faut absolument qu'on sache quelle est la vérité, qu'on ne s'amuse pas, qu'on ne s'improvise pas comme ça, chasseur de démons. Après tout, je m'en fiche. Hein, je dis ça, c'est parce que je me dis, bon, il y a peut-être quelqu'un de sincère qui va m'écouter sur Internet et qui va comprendre, qui va me croire. Mais en réalité, je sais que dans notre communauté, il n'y a personne qui s'amuse à faire des trucs comme ça. j'ai assez enseigné, j'ai assez dit, j'ai assez montré. Je me dis des moments, j'en ai un petit peu marre de toujours. Il y a aussi une lassitude dans les serviteurs de Dieu. Ils en font qu'à leur tête, eh bien, ils verront bien. D'ailleurs, il y en a déjà pas mal qui voient déjà. Hein. Bon, voyons plutôt la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Ça, c'est formidable. Les disciples venaient de chasser les démons. Oh, super, les démons nous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ça. C'est pas ça qui doit vous réjouir. C'est que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors, le titre de ma prédication ce soir, c'est le nom de Jésus et vos noms. Vos noms. Le trône blanc. Au trône blanc, il y aura des livres qui seront ouverts. Apocalypse 20, verset 12. Et puis, un autre livre qui sera ouvert. Le livre de vie. Le livre de vie. Alors les morts seront là, c'est écrit, et nous, pas nous, nous on ne sera pas là, non. Mais les morts seront là, c'est-à-dire tous ceux qui seront restés dans le mauvais côté du séjour des morts, malgré les prédications qu'ils auront entendues là-bas. Parce qu'il y en a qui refusent l'évangile, même dans cet endroit. Jésus est allé y prêcher, 1 Pierre 3,19, 1 Pierre 4,6, les enfants de Dieu véritables, une fois qu'ils sont décédés, ils vont prêcher aussi, parce que tout ce que Jésus a fait, on doit le faire aussi. Et puis, mais les enfants de Dieu ne se trouveront pas au trône blanc. Pourquoi ? Parce qu'un véritable enfant de Dieu ne meurt pas. Et comme c'est écrit, les morts seront devant le trône blanc, ben, nous n'y serons pas, parce que nous ne mourrons pas. Vous voyez la chose ? Jean chapitre 11, verset 26, un enfant de Dieu véritable ne meurt pas. Donc, nous ne serons pas là pour être jugés. Jésus le dit encore ailleurs, il dit dans Jean 3, 18, que quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, de façon correcte, hein, il est déjà jugé, c'est fini, il ne passera pas en jugement. En tout cas pas au sujet de son salut. Il passera dans un jugement pour savoir qu'est-ce qu'il mérite comme récompense, c'est tout autre chose. Donc les morts qui auront passé par la grande tribulation, et tous ceux pour lesquels personne... Donc, n'auront été baptisés en tant que substitut, parce que, évidemment, pendant la grande tribulation, il n'y aura plus personne pour se faire baptiser pour les morts. Et bref, les morts seront jugés selon ce qui est écrit dans les livres. Donc, ce qu'on fait, tout ça, c'est écrit. Hein, Puis, il y aura le livre de vie qui sera ouvert, et ceux qui n'auront pas nom écrit là-dedans seront perdus et jetés dans les temps de feu. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas une doctrine à Genton, c'est écrit dans, c'est Jean qui a vu ça, il a écrit ça dans Apocalypse 20, 11, 15. Donc pour le moment, dans les temps de feu, il n'y a personne. Alors tous ces bouquins que les chrétiens dévorent, ils adorent ça, ces bouquins, des espèces de bonnes femmes déséquilibrées, des espèces de bonhommes déséquilibrés qui disent qu'ils ont visité l'enfer, puis ils ont vu Michael Jackson ou le pape en enfer. C'est des âneries de première classe, pentecôtistes et compagnies charismatiques, des débiles mentaux. Tous les charismatiques et tous les pentecôtistes ne sont pas des débiles mentaux, mais il y en a pas mal parmi eux. Et moi, ce que je trouve minable, c'est qu'on diffuse ces livres. Et puis, les gens y croient. Surtout parmi la population des Africains, ils croient des âneries comme ça, ils adorent ce genre de trucs. Eh bien, c'est faux, il n'y a personne pour le moment en enfer. Ils seront jetés dans les temps de feu à la fin, après le trône blanc. C'est clair? C'est clair. Ceux qui n'aiment pas ça, arrêtez tout de suite, n'écoutez plus mes prédications. Vous n'avez rien compris, vous n'aimez pas la vérité. Ben, continuez dans vos mensonges et dans vos fables. Bon, David, un jour où il était particulièrement énervé, parce que ça lui arrivait aussi, il a prié pour que le nom de ses ennemis soit effacé du livre de vie. On trouve ça dans Psaume 69, 29. Moi, j'ai jamais fait ça encore, donc... Je suis moins énervé encore que David. Mais enfin, j'en ai moins vu que lui aussi. Hein. Quoique, et dans Apocalypse 3,5, il est écrit « Le vainqueur sera habillé de blanc, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. » Ah ah, il y a quand même des gens dont le nom va être effacé du livre de vie. Mais c'est pas n'importe qui, on va y revenir, je vais vous dire qui c'est. Et il dit, je le connaîtrai devant mon Père et devant les anges, celui qui aura vaincu. Je n'effacerai pas son nom, mais je le connaîtrai devant mon Père et devant les anges. Alors, Jésus ôte certains noms du livre de vie. Qui sont ces gens dont Jésus enlève le nom? Ce sont des gens qui ont vécu pendant la dispensation de l'Église. De l'Église, c'est-à-dire depuis qu'elle a été fondée, environ 2000 ans. Il y a eu 7 périodes, et ceux qui ne sont pas vainqueurs, leurs noms seront enlevés du livre de vie. Ils ont été soit de la fausse Église, ils n'ont pas voulu savoir au sujet de la vraie Église, ou alors ils ont été de l'Église vraie, mais ils n'ont pas persévéré. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais oui, il ne faut pas oublier Matthieu 10, 30, 22, qui dit que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. C'est-à-dire, excusez-moi, mais si je comprends bien ce que Jésus dit là, c'est que ceux qui ne persévéreront pas jusqu'au bout ne seront pas sauvés. Ils auront pu être sauvés un moment, ils auront pu être de bons chrétiens, aller à l'église, donner leur dîme fidèlement, évangéliser, conduire des gens à Jésus, chasser des démons, prophétiser, tout ce que vous voulez, mais s'ils ne persévèrent pas jusqu'au bout, ils ne seront pas sauvés. Point. C'est Jésus qui le dit, il le répète dans le même évangile, dans Matthieu 24, 13, et Marc le dit aussi dans Marc 13, 13. Alors, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou s'il se détruit lui-même? C'est ce que Jésus dit. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai honte de lui et quand je viendrai dans ma gloire et dans la gloire du Père et des saints anges, j'aurai honte de lui. Voilà, ça c'est dans Luc 9, 25, 26. Pour avoir honte de Jésus, il faut le connaître. Pour avoir honte de ses paroles, il faut les connaître. Donc vous voyez. C'est pas si simple. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire croire? Ça explique beaucoup de choses. Vous voyez, pour être enregistré dans le livre de vie et y demeurer, il ne suffit pas d'en faire la demande. C'est pas comme si on s'abonne à Tintin et puis nous inscrivent dans leur registre pour soit Tintin. Non. Et puis même encore Tintin, il faut payer, hein. Si vous payez plus, ils enlèvent votre nom du registre. Dans le registre de Dieu, on y est ou on n'y est pas. Et on n'y est pas à cause de certaines choses. On n'y est pas par hasard. C'est pas par hasard qu'on n'y est pas. On y est ou on n'y est pas. Voilà. On n'y est pas selon à cause de certaines choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Les œuvres. Vous allez me dire, ah bon, les œuvres. Mais bien sûr, les œuvres. Abraham, le père de la foi, n'a pas été sauvé à cause de sa foi seulement, mais à cause des œuvres qu'il a faites par la foi. Ah, mais il faut arrêter avec cette histoire. Vous prenez des textes, et puis vous gargarisez avec ça, et puis vous croyez que c'est la seule vérité. Bien sûr que c'est la vérité, mais la Bible est un livre complet qu'il faut lire complètement et pour se faire une idée complète de la réalité. Jacques 2, 20, 26, écoutez bien. Jacques 2, 20, 26. Voilà ce qu'il est dit. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, j'ai une autre version, c'est marqué tête creuse. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres en cohérence. Et que par les œuvres, sa foi a été amenée à la perfection. Donc il avait la foi en emmenant son fils pour le sacrifier, mais sa foi n'était pas parfaite. Il fallait l'acte. L'acte. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. Puis après, il cite une prostituée, Rab. Rab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière comme Abraham? C'est fou, ce qu'il mettait dans la tête des juifs en disant ça, c'était terrible. Rab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli des messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, ça fait réfléchir, hein, ça fait réfléchir, les œuvres. La foi, mais pas la foi n'importe comment, la foi dans ce que Dieu dit. Si votre foi est mal placée, par exemple, supposons votre foi elle est placée dans vos visions, dans les idées prophétiques que vous avez, ou toutes sortes de trucs, je ne sais pas quoi, dans les dogmes. Si votre foi est mal placée, toutes vos œuvres, si bonnes soient-elles, ne sont pas bonnes. Elles vous semblent bonnes, mais elles ne sont pas bonnes. Parce que les seules œuvres que Dieu agrée, c'est celles qui sont faites par la foi. L'acte de Caïn était le même que l'acte de son frère Abel. Tous les deux, ils ont offert un sacrifice à Dieu. D'accord ? Or, le sacrifice de Caïn n'a pas plu à Dieu. Pourquoi ? Oh, ben parce qu'il faisait la gueule, ou bien ça, c'est tout ce qu'on imagine. Oh, alors oui, alors moi je trouve que non, ce qu'il faut savoir, c'est que Caïn, il a offert des trucs qui n'étaient pas bons aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'il a offert des légumes, des fruits, des cacahuètes, des bananes, des melons, tout ce que vous voulez. Or, nous savons, aujourd'hui, à cause de l'évangile rétabli, par le livre de Moïse, au chapitre 5, versets 5 à 9, que Dieu avait ordonné à Adam d'offrir des animaux. Je vous lis le texte. Moïse 5, je vous lis à partir du verset 5. Déjà verset 4. Et Adam et Ève, sa femme, invoquèrent le nom du Seigneur. Ah, ils invoquèrent le nom du Seigneur. Ils connaissaient le nom du Seigneur. On va y revenir. Et ils entendirent la voix du Seigneur venant de la direction du jardin d'Éden, leur parlant, mais ils ne le virent pas, car ils étaient exclus de sa présence. Et il leur donna des commandements, donc Dieu, le Seigneur, leur donna des commandements selon lesquels ils devaient adorer le Seigneur leur Dieu et offrir les premiers-nés de leurs troupeaux en offrande au Seigneur. Et Adam obéit au commandement du Seigneur. Et après de nombreux jours, un ange du Seigneur apparut à Adam et lui dit, « Pourquoi offres-tu des sacrifices au Seigneur ?» Et Adam lui dit, « Je ne le sais, si ce n'est que le Seigneur me l'a commandé. » Alors l'ange parla, disant, « C'est une similitude du sacrifice du Fils unique du Père, qui est plein de grâce et de vérité. C'est pourquoi tu feras tout ce que tu fais au nom du Fils. Tu te repentiras et invoqueras dorénavant Dieu au nom du Fils. » Ce jour-là, le Saint-Esprit, qui rend témoignage du Père et du Fils, descendit sur Adam, disant, « Je suis le Fils unique du Père depuis le commencement, dorénavant et à jamais, afin que de même que tu es tombé, tu puisses être racheté, ainsi que toute l'humanité, tous ceux qui le veulent. » Ah. Vous me direz, mais comment Adam pouvait-il invoquer le nom du Fils, comme c'est écrit là au verset 8? Mais parce que Dieu lui avait révélé. Ah bon? C'est pas dans la Bible, Michel. Alors, oui, d'accord, on va y revenir. Moïse, chapitre 6, versets 51 à 60. Je vous lis. Moïse 6, 51 à 60. Et il appela notre père Adam de sa propre voix, le Seigneur, disant, « Je suis Dieu, j'ai fait le monde et les hommes avant qu'ils ne fussent dans la chair. » Et il lui dit également, « Si tu veux te tourner vers moi, écouter ma voix, croire, te repentir de toutes tes transgressions, être baptisé dans l'eau au nom de mon Fils unique, qui est plein de grâce et de vérité, lequel est Jésus-Christ, le nom qui sera donné sous le ciel par lequel le salut sera donné aux enfants des hommes, tu recevras le don du Saint-Esprit et tu demanderas tout en son nom et tout ce que tu demanderas sera donné. » Et notre père Adam parla au Seigneur et dit, « Pourquoi faut-il que les hommes se repentent et soient baptisés d'eau ?» Et le Seigneur dit à Adam, « Voici, je t'ai pardonné ta transgression dans le jardin. » C'est de là que le bruit se répandit parmi le peuple que le Fils de Dieu a expié la faute originelle, à la suite de quoi les péchés des parents ne peuvent tomber sur la tête des enfants car ils sont purs dès la fondation du monde. Et le Seigneur parla à Adam disant, « Étant donné que tes enfants sont conçus dans le péché, lorsqu'ils commencent à grandir, le péché est conçu dans leur cœur et ils goûtent l'amer afin d'apprendre à apprécier le bien. Et il leur est donné de discerner le bien du mal. » C'est pourquoi ils peuvent agir par eux-mêmes, et je t'ai donné une autre loi, un autre commandement. C'est pourquoi enseigne-le à tes enfants, que tous les hommes de partout doivent se repentir, sinon ils ne pourront en aucune façon hériter le royaume de Dieu, car rien d'impur ne peut y demeurer ou demeurer en sa présence. Car dans la langue d'Adam, homme de sainteté est son nom, est le nom de son Fils unique, est le Fils de l'homme, Jésus-Christ, juge intègre qui viendra au midi des temps. C'est pourquoi je vous donne le commandement d'enseigner libéralement ces choses à vos enfants, disant que c'est en raison de la transgression que se produit la chute, laquelle chute apporte la mort, et étant donné que vous êtes nés dans le monde par l'eau et le sang, et l'esprit que j'ai fait, et qu'ainsi de la poussière est sortie une âme vivante, de même, vous devez naître de nouveau d'eau et de l'esprit dans le royaume des cieux, et être purifié par le sang de mon Fils unique, afin d'être sanctifié de tout péché, et de jouir des paroles de la vie éternelle dans ce monde, et de la vie éternelle dans le monde à venir, la gloire immortelle. C'est par l'eau, car par l'eau vous gardez le commandement, par l'esprit vous êtes justifié, et par le sang vous êtes sanctifié. Oh! Sinon, expliquez-moi pourquoi Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Une lubie? Non. Caïn savait très bien qu'il fallait offrir le premier-né des animaux. S'il n'y a pas de révélation, comment Caïn pouvait-il être coupable? Si Dieu n'avait pas dit qu'il ne fallait pas offrir des sacrifices de courgettes et de machin, si Dieu ne l'avait pas dit, il n'y aurait pas eu péché. Mais Dieu l'avait dit. C'est par la loi que le péché entre. Dieu avait dit, c'est comme ça. Il l'avait dit à Adam. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais qu'il y a un évangile éternel? Vous vous rappelez, je vous disais ça. C'est écrit dans Apocalypse 14, 6. Moi je ne me considère plus comme ça, mais dans les milieux évangéliques, nous avons l'évangile de Jésus-Christ qui a 2000 ans. Mais avant, il y avait un autre évangile, c'était celui de Moïse. Pour être sauvé, il fallait offrir des sacrifices, etc., etc. Selon une loi bien précise. Mais avant, il y avait celui d'Adam. Il y avait une façon pour être sauvé du temps de Adam jusqu'à Moïse. Et puis ces choses ont été perdues, le nom de Dieu a été perdu. Mais l'évangile existait aussi avant. Vous avez peut-être pas fait attention dans la lecture, mais il dit qu'il avait créé l'homme avant de le placer sur terre. Voilà pourquoi on a dans la Bible deux récits de la création. Parce que Dieu avait fait une création spirituelle avant de la faire matérielle. Je vous enseignerai toutes ces choses, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc l'évangile existait déjà avant, parce que déjà avant, dans le monde créé, avant qu'il soit matière, l'expiation avait déjà eu lieu. Elle a été faite avant la création du monde. Jésus sur la croix, ça a été fait avant la création du monde. Vous voulez pas me croire? Vous prenez une bonne Bible, parce qu'il y en a des pas bonnes, dans Apocalypse 13, 8, et vous verrez que Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde. Dans d'autres, c'est écrit dès la fondation du monde. Puis dans d'autres, ils ont encore tordu pire, enfin bon. Mais si vous regardez littéralement, c'est ça qui est écrit. Que Jésus-Christ était immolé avant la fondation du monde. Tout était fait avant. Et maintenant, c'est matérialisé ici. Tout ça pour dire que votre foi doit être basée sur ce que Dieu dit et non pas sur vos idées personnelles. Caïn et Abel ont offert tous les deux un sacrifice. Bravo. Mais il y en a un qui a offert un sacrifice selon son idée personnelle. L'autre, Abel, il a offert selon le commandement de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu, ben, ils sont en général persécutés. Ils sont pas aimés par ceux qui sont rebelles. Ils sont détestés. Ça a toujours été comme ça. Alors bon, voilà, c'est bien. Bon, alors, Jésus dit que rien ne doit nous réjouir plus que d'avoir notre nom dans le livre de vie. Le pouvoir, la richesse, la gloire, tout ça, ça disparaît complètement à côté de cette chose-là. C'est ce qui est le plus important, c'est d'avoir notre nom dans le livre de vie. Voilà pourquoi nous devons travailler en nous mettant au service d'une idée sublime, une idée révélée par Dieu, et non pas une idée comme ça qui nous passe par la tête, par une idée révélée par Dieu. mettons-nous au service d'une idée révélée par Dieu. Alors, déjà, avant de recevoir une idée révélée par Dieu personnellement, il est nécessaire de nous mettre au service des idées écrites par Dieu dans la Bible. Alors, la plupart des gens veulent des idées révélées par Dieu à eux personnellement, mais ne mettent déjà pas en pratique les idées de Dieu révélées dans la Bible. C'est des rigolos, c'est des clowneries, c'est des clowneries. Et l'idée numéro un de Dieu, c'est l'idée du royaume de Dieu sur terre par le moyen de son Église qui témoigne. C'est ça. C'est le travail numéro un que Dieu nous a confié. Son Église sur terre ne peut grandir que par le moyen de l'évangélisation. Si on n'évangélise pas, comment voulez-vous que les gens connaissent le plan du salut pour eux? Ils peuvent attendre indéfiniment devant tous les portails du monde. Il ne se passera jamais rien. Parce que comment sauront-ils si personne ne va leur dire? Voilà ce qui est écrit. On doit témoigner, on doit parler, on doit montrer, on doit démontrer. Mes frères et sœurs, il n'y a rien qui est plus grand, il n'y a rien qui est plus beau. Et vous nous représentez quelque chose de beau et de grand qu'en proportion de ce que vous faites pour la collectivité humaine. De ce que vous faites, c'est là que nous prenons de la valeur. Ce que vous faites au nom du Seigneur, selon son commandement, selon son ordre, et non pas selon vos idées. Parce qu'en évangélisant, vous devenez collaborateur avec Dieu. Le salut des gens, c'est ce que Dieu aime le plus. Jésus est venu pour ça, il nous a envoyé pour ça, et c'est ça que nous avons à faire en number one. En évangélisant vous-même, ou, si vous pouvez pas, pour une raison ou pour une autre, en soutenant, par la prière et aussi financièrement, un ministre, un homme de Dieu, financièrement, vous l'aidez, vous le soutenez, et ainsi vous prenez part au travail. Vous travaillez dans ce que Dieu aime le plus. C'est clair? À qui vous allez envoyer? À Claude Inerski! Non, s'il vous plaît, je vous en prie. En fait, priez pour lui, sa femme vient de le quitter. Hein. Je ne sais pas si vous savez, sa femme vient de le quitter. Elle en avait ras-le-bol. Priez, c'est un pauvre homme. C'est un pauvre homme. Mais voilà, tous les faux prophètes, ils ont leur moment, et puis après, flou. Et si vous faites la volonté de Dieu, écrite, et que Dieu vous parle, c'est très bien. Vous démontrerez par là que vous n'avez pas honte de Yeshua ni de sa parole si vous témoignez par votre vie, mais aussi en parole et en faisant ce qui est bien. Cependant, ce faisant, vous pouvez vous réjouir parce que vous savez que votre nom est dans le livre de vie. Si vous faites ça, vous savez que votre nom est dans le livre de vie, que Jésus n'aura pas honte de vous au jour où il reviendra dans sa gloire, parce que vous aurez participé à l'œuvre qu'il aime le plus. Et même ici-bas, au jour le jour, les anges de Dieu vous servent, vous protègent, vous inspirent, vous êtes scellés du sceau du Saint-Esprit pour le grand jour, vous êtes scellés et vous êtes remplis du Saint-Esprit pour être un témoin de Yeshua et de sa parole rétablie, vous bénéficiez de la présence de Dieu avec vous, en vous. Vous avez droit au renouvellement, vous avez droit à la compagnie du Saint-Esprit, vous avez droit à la compagnie des anges de Dieu, vous avez droit à la lumière pour l'intelligence, vous avez droit à la chaleur pour votre cœur, vous avez droit à l'abondance aussi, parce que Dieu a dit, je suis venu pour que mes brebis aient l'abondance. Ça aussi, bon, alors on dit, oui, il faut pas prêcher l'évangile de l'abondance, mais moi je veux pas prêcher l'évangile du misérabilisme. Hein. Alors évidemment, je ne veux pas prêcher que l'abondance, mais je préfère quand même vous dire que Jésus dit « Ne manquera rien à ceux qui m'appartiennent. Leur grenier regorgera de mou, comme dit la Bible. » Je trouvais ça horrible quand j'étais petit, parce que le mou, pour moi, c'était, vous savez, c'était ce qu'on donne à bouffer aux chats. Quoi. Mais c'est pas ça du tout. Hein. Le mou, en réalité, quand on est dans des pays vignerons, on sait ce que c'est. C'est après le pressage du raisin. Enfin bon, bref, ça montre qu'il y a de l'abondance. Si vous donnez votre dîme, vous serez dans l'abondance et vous ne serez pas maudit. Voilà ce que signifie donc avoir votre nom inscrit dans le livre de vie. Tout ça, ça fait partie, c'est un tout. Tout votre être est vivant parce que tout votre être est branché sur la centrale, sur Dieu. Toutes les activités deviennent alors possibles grâce au courant qui est distribué par la centrale. Faut comprendre, c'est pas compliqué. Si vous n'êtes pas branché, tous vos récepteurs doivent être branchés. Là, ce soir, on a tout débranché chez nous parce qu'il y avait un orage qui commençait à venir. Alors j'ai dit à Stéphane, on débranche les ordinateurs. Il me dit oui, mais il faudrait peut-être aussi débrancher la, comment on appelle ça,
la live box.
Et puis on a aussi débranché la télé. On a tout débranché. Débranche tout. Donc on a tout débranché. Et ben comme c'est débranché, ça marche plus. Hein? On a tout rebranché pour que ça marche. Ben si vous êtes débranché, rebranchez-vous. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Toutes vos récepteurs doivent être branchés. Le courant céleste vous pénètre et toute la vie circule en vous quand vous êtes branché sur Dieu, sur ce qu'il dit. Vous voyez, il a dit à Adam, je veux que tu m'offres des sacrifices d'animaux. Alors Adam l'a fait, il n'a pas cherché à comprendre. Oui, mais pourquoi le baptême pour les morts? Oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Oui, mais... Adam, il n'a pas discuté comme une petite fille. Hein. Dieu a dit, il a obéi, point final. Et puis un ange est venu après pour l'instruire. Il dit, mais tu sais pourquoi tu fais ça? Non, je sais pas. Et puis l'ange lui expliquait. Mais si vous obéissez pas, si vous êtes des gens qui voulaient discuter tout, vous avez vu ce que ça donne les gens qui discutent? On a vu, hein, ce que ça donne les gens qui discutent. Tous vos récepteurs doivent être branchés. Et alors à ce moment-là, la vie circule en vous, détruisant tout ce qui détruit et détruisant aussi ceux qui vous détruisent, qui cherchent à vous détruire. Ils vont être... À ce moment-là, vous êtes participant à la vie divine. Quand vous semez votre dîme, vous êtes participant à la vie divine. Oui, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Bon, vous voulez croire que c'était dans l'Ancien Testament? Eh ben, ne la donnez pas à votre dîme. Dépensez-la en cigarettes, dépensez-la dans tout ce que vous voulez. Ne donnez pas à votre dîme. Voilà, c'est bien. Moi, je m'en fiche, hein, c'est vous. Ne donnez pas. C'est pas grave, c'est votre idée. Vous avez une doctrine qui dit qu'il faut pas donner la dîme. Eh ben, gardez-la, j'en ai pas besoin de votre dîme. Mais vraiment pas besoin. C'est Dieu ma source. Maintenant, une chose est certaine. C'est que si vous donnez votre dîme, il y a des promesses qui sont attachées à ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Quand vous semez votre dîme, vous la semez parce que vous voulez alimenter le temple, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ. Vous voulez qu'il y ait de la nourriture, vous voulez qu'il y ait tout ce qui est nécessaire dans la maison de Dieu. Vous voulez pas ça? Vous dites c'est l'Ancien Testament? D'accord. Jésus a enguirlandé une bande de pharisiens religieux en leur disant oui, vous donnez la dîme de la nette, le ceci, le cela, mais vous oubliez ce qui est le mieux, c'est de vous occuper de vos parents, etc., etc. Sans oublier le reste, c'est-à-dire sans oublier la dîme. Ah, ça, ils oublient, là. Ah, non, ça, non, là, Michel, c'est une interprétation. D'accord, c'est une interprétation. Gardez-la, bouffez-la, votre dîme, étouffez-vous avec. Je m'en fous. C'est tout. Tout ce que j'ai à vous dire. Mais je vous aurais dit au moins la vérité. Vous aimez pas la vérité? Bravo. Vous êtes dans un troupeau, moi, je suis dans un autre. Quand vous donnez une Bible à quelqu'un, maintenant c'est impardonnable de pas donner des Bibles. On trouve des Bibles à un euro, je suis encore dans les francs, moi, à 1 euro. Vous pouvez acheter au moins le plus pauvre, il peut acheter une Bible par semaine pour donner. Est-ce que vous le faites? Une Bible par semaine. L'autre jour, on se promenait dans Cahors avec Michou, on a vu, ils font des sandwichs magnifiques pour 4 euros. C'est pas un sandwich, c'est carrément un repas. Il y a les frites, la salade et tout le fourbi. Pour 4 euros. C'est extraordinaire. Je dis, mais maintenant, c'est bien clochard. Hein. Ils font la manche. Dans la journée, s'ils gagnent pas 4 euros, c'est vraiment... Donc, ils bouffent, quoi. Ils bouffent. Voilà. 4 euros. 4 bibles. Même les clochards peuvent acheter des bibles, maintenant, pour les distribuer. Vous voyez ce que je veux dire, pour faire la comparaison? On est responsable. On doit donner la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite, la parole de Dieu sous la forme de votre témoignage, quand vous donnez votre témoignage... Quand vous donnez l'oracle, là encore cette semaine, on a un homme qui a commandé 3 bouquins. Et ça continue, ça part, les bouquins, comme ça. Ils vont pouvoir lire les beaux témoignages des dissidents, n'est-ce pas? Ça va fortifier. Mais c'est bon, mais c'est bien, il faut. Et l'oracle, on le donne. Nous, on le donne. Pourquoi vous le donneriez pas, vous qui écoutez révélation bible. Simplement, on vous fait payer le porc, mon Dieu. On n'aime pas comment. En plus, qu'on paye le porc, non? Bon, alors, faut aussi, hein? Bon, d'accord. Alors, quand vous donnez une Bible, un oracle, un évangile ou votre témoignage, vous travaillez dans le champ de Dieu, dans ce qui est le plus précieux. Et votre récompense sera grande. Votre récompense sera grande. Il y aura des récompenses. Voilà, ben, on va bien rigoler ce jour-là, on va bien se marrer. Ah ouais, Michel, t'es grossier, t'es vulgaire, tu vas au concert de Sylvie Vartan, tu as toujours... tu aimes bien les fringues, tu aimes bien les voitures, tu aimes bien... Oui, oui, j'aime bien tout ça. Dieu pourvoit pour moi, pour tout ça, pour que je puisse me distraire, pour que je puisse avoir les plus belles choses. C'est vrai, Dieu pourvoit pour ça. Mais qu'est-ce que je fais derrière? Qu'est-ce que je fais derrière? Ça, vous savez pas, ou vous faites semblant de pas savoir. Alors, répandez cette vie partout où vous allez, et Dieu pourvoira à tous vos besoins, même plus qu'à vos besoins, à vos désirs aussi. Recommande ton sort à l'Éternel, fais ce qu'il te dit et il agira, il accomplira tous tes désirs. C'est dans le psaume, je crois, 34 ou 37, je ne m'en rappelle plus. Alors, rien ne doit être plus important pour vous que de devenir un ouvrier dans le champ du Seigneur. Il n'y a rien qui est plus important parce que pour ne pas le faire, on risque de perdre son nom dans le livre de vie. Eh oui! Si vous le faites, c'est que votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est pas parce que vous allez le faire que votre nom va être inscrit, mais c'est parce que vous ne le ferez pas que votre nom sera effacé. Vous voyez la différence? Votre nom, il est déjà inscrit dès avant la fondation du monde. Si vous avez la sensation de ne rien recevoir, la sensation d'être oublié de Dieu, ben c'est parce que vous n'êtes pas encore au travail. Voilà. Voilà. Excusez-moi, je suis désolé, j'ai mis un pavé dans la mare, mais bon, c'est ça. Alors sachez-le, c'est jamais trop tard pour vous rendre digne d'avoir votre nom qui reste dans le livre de vie, parce qu'il y est. Encore faut-il qu'il y reste. Parce que oui, votre nom y est depuis avant la fondation du monde, mais encore faut-il conserver votre nom dans le livre de vie. C'est seulement les vainqueurs. Alors les vainqueurs du temps de Luther, ben, ils avaient une mission. Les vainqueurs du temps de Wesley, ils avaient une autre mission. Les vainqueurs du temps du septième ange encore, et orage, hors les sept âges de l'Église, c'est-à-dire notre période qui est juste avant le retour de Jésus, il y a encore quelque chose à faire. L'Évangile est rétabli en ce moment, il est en train de se rétablir, et si vous n'entrez pas là-dedans, ben, voilà, vous pouvez jouer au luthérien, vous pouvez jouer au pentecôtiste, au baptiste, au méthodiste, à tout ce que vous voulez, mais c'est pas ça que Dieu attend des chrétiens aujourd'hui, alors réfléchissez à ce que je vous dis. Les ouvriers de la dernière heure recevront leur salaire. N'attendez pas. Croyez, mais ne croyez pas seulement. Agissez. Donnez votre dîme fidèlement. Donnez votre témoignage chaque jour. Priez pour les missionnaires. Soutenez-les spirituellement et financièrement. Soutenez surtout ceux qui ont du succès. Parce que si vous soutenez un missionnaire qui va juste prêcher dans les grandes églises en Afrique, bon, facile. Vous allez prêcher dans les grandes églises, sur 2000 personnes, il y en a déjà 2850 qui sont converties. Non, il faut aller soutenir ceux qui vont dans les villages. Je vous dirai pas des noms, mais bon. Soutenez ceux qui vont là où l'évangile n'a jamais été. Ce que nous faisons, nous. Eh ben, soutenez-nous, aidez-nous à le faire. Là, au mois d'octobre, je vais partir. J'ai juste le billet d'avion pour le moment. Mais il va falloir quand même que je vive là-bas. Donc soutenez-moi, aidez-moi à aller apporter l'évangile. Quand je vais prêcher l'évangile avec ce que vous m'avez envoyé, c'est comme si vous étiez avec moi. Parce que sans vous, je peux pas le faire. Alors je vous citerai pas les textes qui menacent ceux qui font pas ça. Vous les connaissez déjà. Si vous les connaissez pas, écrivez-moi, je vous les enverrai. C'est pas réjouissant, hein. C'est pas réjouissant. Mais simplement, je vous dirais, ne jouez plus aux chrétiens. On n'a plus le temps. Soyez un disciple de Jésus-Christ. Faites ce que Jésus dit de faire. Ne soyez pas des Caïn. Soyez des disciples de Jésus. Soyez des Abel, même si ça coûte votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus d'aider mes frères et sœurs à être conséquents et à faire tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir être dans ton champ, pour travailler dans ton champ et faire ta volonté. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.